Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV et mon invité ce matin, plus qu'un invité, c'est évidemment un spécialiste, un chroniqueur, un consultant, Dominique Rizet. Bonjour Dominique
Apolline,
Rizet,
bonjour.
Consultant police-justice de BFM TV et on a bien besoin de vos lumières ce matin. Où est Liana, la petite fille de 10 ans qui a donc disparu vendredi dernier? Mais depuis 24 heures, alors que les recherches se poursuivent, ce n'est plus seulement l'affaire Liana, c'est aussi l'affaire Jérôme B. Une affaire tentaculaire où l'on découvre un homme accusé de plusieurs plaintes, de signalement pour des viols, des comportements déplacés sur des fillettes ou des jeunes filles mineures. Et c'est aussi l'affaire de la justice avec cette question que pose la maman de l'une des petites filles qui avait porté plainte pour viol contre lui en août dernier. Si la plainte avait été prise au sérieux, Liana aurait-elle disparu? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, Dominique, nous sommes donc jeudi. Presque une semaine que Liana a disparu. On en est où de l'enquête?
Alors écoutez, on la recherche toujours. Donc il y a deux phases. Sur le terrain, il y a des recherches opérationnelles qui sont menées par la gendarmerie avec des renforts d'escadrons de gendarmerie mobile. Vous savez que depuis quelques temps, la gendarmerie a fait savoir qu'elle ne tenait plus tellement à ce que des battues citoyennes soient organisées. D'abord les gendarmes et ensuite si on a besoin de personnes qui viennent en aide, eh bien on va chercher des chasseurs. C'est ce qui s'est passé hier parce que les chasseurs connaissent le secteur, des ramasseurs de champignons, des gens qui connaissent le coin. Donc des recherches opérationnelles sur le terrain et puis à côté des recherches numériques, techniques et une personne qui a été placée en garde à vue et pas n'importe qui parce que c'est un personnage. On va y revenir, très intéressant. Recherche numérique, ça veut dire la caméra de vidéosurveillance. Il est 15h05, à la sortie du collège, l'après-midi, et Liana monte dans une voiture. Et c'est le conducteur de cette voiture qui va être interpellé par les gendarmes, qui lui pose la question, « Monsieur, est-ce que ?» Et monsieur répond, « Non, pas du tout, j'étais pas là. » Et les gendarmes lui disent, « Caméra. »
Ah, il donc, commence par dire « Non. » »«
Non, je n'ai pas vu Liana, ce jour-là, pas du tout. » Or, les enquêteurs savent, avec la vidéosurveillance et un témoignage, que Liana est bien montée dans la voiture grise de cet homme. Premier mensonge. En tout cas, mensonge. Et donc ça, c'est l'enquête numérique. Et comme on est maintenant sur ce suspect, plus que suspect, il était placé en détention, toujours présumé innocent, mais placé en détention, eh bien, on va regarder le déplacement de sa voiture, de son téléphone. Est-ce que Liana avait un téléphone? Est-ce que son téléphone s'est déplacé, a borné en même temps que celui de cet homme dans la voiture, puisqu'on sait qu'elle monte dans la voiture? Est-ce que son téléphone a cessé d'émettre? On n'a pas encore les éléments sur est-ce qu'elle avait un téléphone.
On imagine et on espère que les enquêteurs l'ont et que ça fait partie des éléments sur lesquels ils vont pouvoir remonter. Il y a deux heures, Dominique, et c'est ce qui est sidérant dans cette histoire. Il y a deux heures, entre 15h05, comme vous le dites, là on sait précisément que Liana est montée dans la voiture. Mm-hmm. Et aux alentours de 17h, Jérôme Barella est vu à nouveau, puisqu'il vient chercher sa cadette ou qu'il participe à une fête de l'école. Il y a donc deux heures pendant lesquelles on ne sait pas ce qui s'est passé.
C'est un tout petit peu plus compliqué.
Ah,
15h05.
Dites-moi.
15h05, elle sort de la piscine. Elle sort de son collège.
Elle sort de son collège.
Il faut 5 minutes pour aller à la piscine. Quand les gendarmes lui posent la question, il répond, oui, finalement, je l'ai récupéré à la sortie du collège et je l'ai conduit à la piscine. 5 minutes. Ensuite, il dit, mais ça, ce n'est pas vérifié. En tout cas, ça doit l'être, mais on n'a pas l'information ni la réponse. Il dit qu'à 16h30, il est allé chercher sa fille à l'école. Ensuite, il dit qu'à 18h30, pardon, dans cette même école, il a assisté à une fête. Visiblement, 18h30, il est bien dans l'école, il assiste à la fête. Maintenant, les gendarmes sont allés questionner sa fille et pour lui demander, est-ce qu'à 16h30, ton papa est venu te chercher à l'école? On n'a pas la réponse. Ce qui fait que ça laisse un écart de temps plus grand à JB.
Ça veut dire qu'au fond, 15h05, effectivement, le moment où, officiellement, dit-il, elle est descendue de sa voiture.
Oui. 18h30.
16h30, dit-il, il serait allé chercher sa fille à l'école.
C'est à vérifier.
18h30, pour le coup,
il est là.
Il est bien là, et là, des témoignages le disent, il a bien été vu à la fête de l'école.
Ça lui laisse entre 15h et 18h30 pour...
Pourquoi?
Pour faire quelque chose qu'il refuse d'expliquer aux enquêteurs. En tout cas, il n'a pas beaucoup parlé aux enquêteurs, ou très peu. Et il a fait valoir son droit au silence devant la juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue de 48 heures, ce qui veut dire que les enquêteurs ne pourront plus le reprendre. La garde à vue est finie. Celui ou celle qui peut le questionner maintenant, c'est le ou la juge d'instruction.
Et tout converge donc vers cet homme, avec plusieurs points qui font qu'il est le suspect. Au départ, parce que c'est lui qui a en réalité vu la petite Liana pour la dernière fois, oui. Puisqu'elle est montée dans sa voiture. Mmh. Et puis, il commence à y avoir les récits de la maman qui dit qu'elle avait été chez lui pour une soirée pyjama. Oui. Là, ça commence à lever les doutes.
Bien sûr. Alors, la maman de Liana raconte qu'elle est allée chez lui pour une soirée pyjama, qu'ensuite, elle a raconté des choses et que les parents de Liana ne voulaient plus entendre parler de JB, de cet homme qui tournait autour de Liana. Donc il y avait les soirées pyjama, il y a ce que Liana avait dit à ses parents, et donc cet homme tournait autour d'elle un peu comme un prédateur. Alors encore une fois, on va pas faire le film avant que le film ne soit déroulé, et cet homme est présumé innocent.
Il a été vu lui apportant des goûters, voilà, à la sortie du collège.
C'est clairement quelqu'un qui s'intéressait à cette jeune fille. Des goûters, il lui apportait des cadeaux, il était autour d'elle, les parents ne voulaient plus qu'elle aille chez lui. Et ce qui est terrible, c'est que chez lui, il y a un piège. Le piège, c'est sa propre fille, à lui, qui a l'âge de Liana et qui est la copine de Liana. C'est les soirées pyjama, on a tous des enfants, les enfants sont tous allés à des soirées pyjama. On s'est parfois posé un peu la question de savoir dans
quel foyer
allaient nos
enfants. Tous les parents se posent toujours la question.
Mais là, je peux vous dire que les soirées pyjama, ça va être terminé.
Alors, les soirées pyjama, il y a évidemment Liana. Et puis, il y a cette découverte, information BFM TV, qui évidemment crée la stupéfaction. Mmh. Une plainte. Et puis hier, on apprend que ce n'est pas une seule plainte pour viol, mais d'autres. Est-ce que vous pouvez nous refaire la chronologie?
Alors, août 2025... Une plainte est déposée pour viol au pluriel sur une fillette de 11 ans par ses parents entre 2024 et 2025 à Montestruc-sur-Gers au domicile de celui que moi j'appelle JB. Hein. 9 mois plus tard, il n'a toujours pas été entendu. L'affaire est toujours à l'instruction et la procureure de la République d'Auch nous dit c'est parce que on attend d'avoir tous les éléments constitutifs de l'enquête, expertise psychologique, expertise psychiatrique, examen médico-légal de l'enfant, audition des parents, avant d'entendre enfin et de placer en garde à vue Monsieur JB. Donc, on en est là. Et il y a eu visiblement des dysfonctionnements, ou en tout cas...
Des lenteurs.
Des lenteurs. La gendarmerie, la brigade territoriale...
Des moments où c'est resté un peu dans le fond du tiroir.
Sûr. La brigade de Lectoure a été saisie par la justice, par Auch, le parquet d'Auch, au mois de janvier. Et depuis janvier, il ne s'est pas passé grand-chose. Le parquet leur avait demandé aux gendarmes de refaire des auditions de la maman, reprendre des auditions de la petite, de vérifier quelques points. Mais là, on est au mois de juin. Donc, jusqu'ici, le temps a passé.
Dominique Rizet, que dit la petite fille, la petite Rosa? Elle dit, elle a été jusqu'à porter plainte, bien raconter sûr. Un récit circonstancié. Oui. Et malgré l'âge de la petite, il n'y a pas eu un sentiment d'urgence?
Mais vous savez, c'est ce que disaient plusieurs avocats qui sont venus chez nous hier, hein, Maître Pardo, Maître Maslia, et qui travaillent sur ce genre de dossier. En fait, on ne croit pas les enfants. A priori, on ne croit pas les enfants. On considère que les enfants sont des affabulateurs, on ne les croit pas. Et donc, il faut, pour des avocats, des pénalistes qui travaillent sur ce genre de dossier, insister, relancer la justice en permanence.
Alors que un certain nombre de, j'allais dire presque de warning auraient dû immédiatement évidemment clignoter, oui. Les sirènes auraient dû se mettre à sonner dans les bureaux de la police ou de la justice et de la gendarmerie en l'occurrence, parce que certes il y a cette plainte donc pour viol déposée le 22 août 2025, mais il y avait eu précédemment un licenciement en 2021 avec signalement absolument. Pour des faits d'insistance particulière sur une jeune fille dans le cadre d'un établissement scolaire. Il y avait eu en janvier 2024 une plainte qui avait été classée sans suite pour viol sur une fillette de 9 ans. Il y avait eu en décembre 2017 un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie sur la question d'une jeune fille de 17 ans dont la mère avait saisi la gendarmerie. Et tout cela comme si c'était en parallèle, comme si aucun n'avait croisé l'autre.
Oui, la plainte de 2022 pour des faits commis en 2020, c'est sur une fillette de 7 ans.
De 7 ans, oui.
Alors là, il n'y a pas de condamnation pour l'instant. Donc il n'y a pas de casier judiciaire. Cet homme, JB, n'a pas de casier judiciaire. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, Or, il y a une fois où il a été placé en garde à vue dans une affaire où on aurait pu prélever son ADN et le verser otage au FNAEG, au fichier des antécédents judiciaires. Il aurait pu avoir un TAJ. Donc c'était une signalisation au système des antécédents judiciaires. Et voyez, c'est ça qui choque dans cette affaire. Et c'est ça qui est inaudible pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce genre de personnage aussi prévisible soit passé à travers les mailles du filet et puis échapper aux enquêteurs, les policiers, parce qu'il y a une plainte déposée dans un service de police, aux gendarmes, parce que les autres affaires sont chez les gendarmes, et à la justice. Et ça, c'est pas supportable, c'est pas audible. C'est comme dans les féminicides. C'est le type qui dit je vais tuer ma femme, il le dit 10 fois, il finit par la tuer, ensuite on dit ah bon, c'est Bruno Garcia qui tue sa femme Julie Douib en Corse, et ça a généré le Grenelle des violences faites aux femmes.
Laurent Nunez a dit hier qu'il y aurait une enquête administrative pour voir d'éventuels dysfonctionnements. Oui. Les dysfonctionnements, clairement, on les a sous les yeux. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Dominique Rizet, ce matin, c'est que même lorsqu'il s'agit d'enfants, oui, et c'est évidemment la question de cette urgence de la protection de l'enfant, je pense aussi aux deux filles de JB, comme vous l'appelez,
les malheureuses,
qui sont deux petites filles qui étaient en permanence avec cet homme. L'État a-t-il failli dans la protection des enfants ? À quoi servent les signalements s'ils ne sont suivis d'aucune conséquence ?
La réponse est oui. L'État a failli, c'est évident. Et les enquêtes le prouveront. Donc l'enquête demandée par Laurent Nunez concerne les enquêteurs, gendarmes, policiers, en l'occurrence plutôt les gendarmes. Et les enquêtes aussi demandées par Gérald Darmanin concernent la justice, le parquet d'Auch, parce que ça traîne des deux côtés. Mais moi, je veux pas accabler des hommes, parce que je connais bien le travail des policiers et des gendarmes sur le terrain. Ils en ont beaucoup. Et le travail de la justice aussi, elle en a beaucoup. Elle manque de tout, elle manque de moyens, elle manque de greffiers. Les greffiers, c'est un métier très important et on les oublie trop souvent. Moi, je pense qu'on n'a pas les bons outils. Et que, en fait, plus de gendarmes, plus de policiers, plus de justice, c'est pas ça qui va changer les choses. On n'a pas les bons outils. Il faut de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, des guetteurs, des veilleurs, des gens qui surveillent ce genre de sujet. Et puis, il faut aussi des nouveaux outils informatiques. On est intelligent, on sait faire. On est une démocratie,
c'est
un pays.
C'est ce qui paraît d'autant plus inacceptable et insupportable. Dominique Rizet, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a conférence de presse hier de la procureure, pendant qu'il y a ces questions politiques, pendant qu'il y a cette enquête qui va donc être lancée, enquête administrative sur les dysfonctionnements, il y en a toujours introuvable et c'est une course contre la montre. Vous nous avez dit au début la manière dont ces enquêtes étaient menées. Quels sont les éléments qui sont en possession aujourd'hui de la justice qui permettraient peut-être de pouvoir accélérer le fait de retrouver cette fillette ?
Alors techniquement, on a une plage horaire entre 15h, on l'a dit tout à l'heure, 15h10 et 17h30. Hein. Quel trajet a-t-il pu parcourir, si c'est lui, si c'est bien lui, JB, quel trajet a-t-il pu parcourir, combien de kilomètres a-t-il pu faire, le temps d'aller quelque part, de faire quelque chose et de revenir à son point de départ. Donc ça donne un rayon aux enquêteurs dans lequel ils sont en train de chercher
Dans
Liana.
Lequel il aurait eu le temps de faire l'aller-retour, en quelque sorte, puisque l'on sait à quel moment il revient, voilà, où il réapparaît.
Et vous voyez comment c'est compliqué dans une affaire comme l'affaire Delphine Jubilard, avec Cédric Jubilard, désormais condamné, qui ne s'est pas tellement éloigné de chez lui, qui a été condamné pour le meurtre de sa femme, dont on n'a jamais retrouvé le corps. C'est-à-dire combien c'est complexe de rechercher quelqu'un. De la même façon, combien de temps a-t-on cherché le petit Émile dans une toute petite superficie. Là, dans cette affaire-là, 10 km de diamètre, ça fait 314 km de superficie. Ça fait 3 fois la ville de Paris pour rechercher Liana. Dans la végétation.
Dominique Rizet, le profil, donc, on l'a vu, les éléments matériels, il y en a, la voiture.
Oui, la voiture, bien sûr que la voiture parle. Elle a déjà parlé d'ailleurs. Une voiture qui parle, c'est la voiture de Nordal Lelandais dans laquelle va monter Maëlys. Nordal Lelandais qui dit non, elle n'est pas montée dans ma voiture. On retrouve une empreinte palmaire de Maëlys dans la voiture. Donc, bien sûr qu'on va trouver de l'ADN, des cellules épithéliales, des empreintes digitales de la petite.
Liana
dans la voiture de JB.
De toute façon, il l'assume aujourd'hui. Il dit oui, elle est montée dans la voiture.
Voilà.
Donc, ce serait normal si c'est à la place du passager. Dominique Rizet, il ne parle pas, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il parle? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il parle?
Juste avant de vous répondre, si elle est montée dans la voiture, elle est montée à l'avant. Si on trouve des cellules épithéliales, de l'ADN, des traces, des particules de vêtements sur la banquette arrière, c'est qu'il y a une autre version. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il parle? Eh bien, c'est très difficile pour les auteurs de meurtres d'enfants, d'enlèvements ou de meurtres d'enfants, parce que cet homme est un père de famille et qu'il y a des blocages qu'il faut faire sauter, des verrous qu'il faut faire sauter. Alors, les gendarmes travaillent sans doute avec des psychologues quand on interroge des personnes comme lui, des psychologues pour essayer de les faire craquer, mais c'est terrible parce qu'il n'a pas parlé devant les enquêteurs et c'est difficile ensuite de parler devant le juge. La pression d'une garde à vue, c'est pas l'audition dans un cabinet d'instruction. Un juge d'instruction vous reçoit, vous vous asseyez,
c'est cordial.
Y a votre avocat, c'est cordial. C'est pas une garde à vue où les gendarmes tournent autour de vous, viennent vous réveiller à 2h du matin en vous disant tiens, on va vous reprendre de 2h à 4h, vous êtes fatigué. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça veut dire que cet homme, si c'est lui, et souvent les prédateurs sexuels sont verrouillés parce que avouer un meurtre, avouer le meurtre de l'amant de votre femme, c'est quelque chose. Mais avouer l'enlèvement, le meurtre d'une petite fille de 7 ans, de 11 ans, c'est très compliqué et l'histoire criminelle le prouve à chaque fois.
Dominique Rizet, au moment où l'on se parle, l'enquête a repris. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'il reste encore qui n'ait pas été fouillé, analysé, regardé?
Il reste tout. Il reste tout à faire. On a des périmètres sur lesquels on note des cartes géographiques, des cartes IGN, sur lesquelles on note ici on est passé, là on a constaté ça, là on a peut-être trouvé quelque chose. Et on va ensuite éliminer ces endroits-là, mais ça va quand même rester compliqué. L'affaire du petit Émile, souvenez-vous, on retrouve son crâne à un endroit où des recherches avaient eu lieu. Donc il faut être très organisé. Et il faut que les groupes de travail se parlent, mais bon, ça, les enquêteurs savent faire, les gendarmes savent faire. Chacun se partage, on se partage le travail. Il y a ceux qui cherchent sur le terrain, il y a ceux qui cherchent le numérique, la téléphonie, il y a ceux qui vont faire des auditions. Vous disiez, tiens, ça fait une semaine. Eh bien, une semaine, c'est important parce que il y a des jours clés. Voyez, le vendredi matin, demain, les gendarmes vont être partout pour poser des questions à tous ceux qui vont passer en voiture dans le coin, parce qu'on a ces habitudes. Par exemple, le vendredi, c'est jour de poisson, ben on va à la poissonnerie parce qu'on mange pas de viande. Ou alors le vendredi, c'est jour de mosquée, on va faire la prière, on va repasser au même endroit à telle heure. Ou le vendredi, c'est rendez-vous avec les copains pour aller faire du vélo, ou avec des copines pour aller boire
et
un thé.
Et ceux qui peut-être étaient là vendredi dernier seront à nouveau là vraisemblablement ce vendredi.
Ceux qui ont des habitudes, Apolline, qui passent là le même jour, à la même heure, pour aller chercher les gosses à l'école, pour un rendez-vous en chimiothérapie ou chez le médecin, etc. Donc demain, ça va être un jour, si on n'a pas retrouvé Liana, ça va être un jour important de l'enquête.
Un jour
et
crucial.
toute la région va être criblée par les gendarmes.
Criblée et déjà évidemment extrêmement mobilisée, on l'entend sur le terrain avec nos reporters. Merci beaucoup Dominique Rizet d'avoir pris le temps ce matin de vraiment comprendre à la fois évidemment où en est l'enquête, mais aussi ce profil et les dysfonctionnements. On le rappelle, il y aura une enquête, mais le temps de l'enquête n'est évidemment pas celui de la recherche de cet enfant toujours disparu donc depuis vendredi dernier. Merci Dominique Rizet, consultant police-justice sur BFM TV. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.